Il y a peu, je m'interrogeais sur la tenue républicaine, suite à l'intervention d'un ministre sur les tendances de la mode dans les collèges et lycées, une mode qu'il considérait comme de plus en plus séductrice chez les filles. Aujourd'hui, je dois me pencher sur la question de la pédagogie républicaine, suite au récent discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamique. Il n'est pas inutile de reprendre certains propos du chef de l'État. Le problème, a-t-il dit, c'est le séparatisme islamique. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux. La réponse est un réveil républicain, une mobilisation de toute la nation et au premier rang de l'école. Revoici les fameux hussards noirs de la République, nom historique donné aux instituteurs, vêtus de blouses plus grises que noires, et dont la mission sacrée était au fond de combattre l'influence de l'Église catholique dans l'éducation des jeunes Français. Dans le détail, le ci-dessus cité « réveil républicain » passerait par une loi durcissant les règles régissant les écoles hors contrat et la pratique de l'éducation au sein de la famille. On n'y pense pas souvent, mais si la loi rend obligatoire l'instruction, une obligation récemment étendue à partir de 3 ans, elle ne rend pas obligatoire la fréquentation d'une école. On a sagement séparé le but et le moyen. Sauf que, lorsque certains poursuivent des buts estimés dangereux pour la cohésion républicaine, on ne trouve pas d'autre solution que de s'en prendre aux moyens qu'ils utilisent. Il est connu des services de l'État qu'ici ou là, de véritables écoles islamiques prospèrent dans certains quartiers. Des écoles peuplées d'enfants qui sont réputés, théoriquement, être instruits au sein de leur famille. Des écoles qui promeuvent des valeurs très éloignées de l'idéal républicain et plus encore de la laïcité. Ces écoles n'ont pas d'existence juridique, elles sont parfaitement clandestines. On pourrait les supprimer, puisqu'elles sont hors la loi, mettre à l'amende ceux qui y sévissent, voire s'intéresser à leurs conditions de séjour en France. Eh bien, on a choisi de s'attaquer aux familles qui y envoient leurs enfants en durcissant les règles selon lesquelles on peut instruire ses enfants soi-même. Et là, surprise, du moins pour moi, il y a beaucoup de familles qui pratiquent cela, parce que ça les arrange ou parce qu'elles pensent faire mieux que l'éducation nationale. Il y a une association, l'AIA, L-A-I-A, qui regroupe des familles faisant le choix de l'instruction à domicile, laquelle a dénoncé avec force le projet du chef de l'État, affirmant qu'aucune étude ne permet d'établir le lien entre radicalisation et école en famille. Par exemple, le fait de rendre l'éducation obligatoire dès 3 ans au lieu de 6 a fortement augmenté le nombre de très jeunes enfants désormais considérés comme instruits au sein de leur famille. Pas de radicalisation dans cette inflation-là. Il semble qu'on se dirige vers une interdiction de ces pratiques, sauf pour des raisons médicales ou de handicap. Il est possible que les écoles dites parentales soient elles aussi en danger. Reste l'enseignement à distance, que la Covid a remis au goût du jour. Beaucoup de sportifs ou d'artistes, musiciens, instrumentistes par exemple, y recourent. C'est une forme d'école à la maison, surtout selon un autre rythme et d'autres horaires que ceux de l'éducation nationale. Les sportifs ou les musiciens ne sont pas plus incultes que les autres et ils ont souvent d'autres qualités. L'impression que l'on ressent est un peu que l'on a escamoté l'obstacle, que la peur d'appeler un chat un chat a fait qu'on a noyé le poisson du radicalisme islamique dans l'océan de l'éducation. On culpabilise beaucoup de familles pour une faute qui n'est commise que par bien peu de personnes. La loi qui sera soumise au Parlement ne reprendra pas le terme de séparatisme. On essaiera plutôt le positivisme et de faire une loi pour brandir un peu plus les valeurs républicaines et la laïcité, une loi facile à faire voter, qui ne résoudra pas le problème, mais qui pénalisera beaucoup d'innocents. Petite précision de vocabulaire. Il y a donc l'éducation nationale, mais la loi républicaine parle, elle, non pas d'éducation, mais d'instruction obligatoire. Quelle relation entre l'éducation et l'instruction ? Un exemple intrigant, celui des enfants de 3 ans. Instruit-on un enfant de 3 ans ou l'éduque-t-on ? L'instruction serait-elle simplement la transmission du savoir, tandis que l'éducation comporterait quelque chose de plus, qui serait le savoir-vivre ? C'est toute la difficulté de la tâche de l'école publique que d'allier ces deux choses, et en plus de partager cette noble tâche avec les familles. Au fur et à mesure que notre société s'est diversifiée, avec notamment l'arrivée sur notre sol de familles porteuses d'autres formes de savoir-vivre, et cette tâche s'est complexifiée, même si on affecte de penser qu'il n'y a qu'une seule éducation dite républicaine, avec des mots sacrés comme tolérance, laïcité, à quoi tout le monde n'accorde pas le même sens. Les futurs citoyens sont censés se construire une pensée individuelle, mais aussi se montrer capables de faire peuple. Intéressons-nous au concept de transmission. Dans le mot lui-même, il y a l'idée d'une médiation entre ceux qui ont su et ceux qui ne savent pas encore. Le savoir est reçu en somme du passé, mais ceux qui le reçoivent sont l'avenir, un avenir qu'ils auront à créer. Il faut donc inciter à la création. À partir d'un certain niveau, pour avoir le droit de transmettre du savoir, il faut avoir fait la preuve qu'on était capable d'en créer. Et toute création est souvent un combat contre le passé. Un docteur doit soutenir sa thèse et donc se confronter avec les docteurs d'avant lui. Peut-être moins que la nature du savoir transmis, la façon dont cette transmission se fait est un enjeu majeur de l'instruction. Des parents critiquent le mode de transmission du savoir par l'éducation nationale, et c'est une des raisons de leur méfiance envers l'école publique. Trop grande passivité des élèves, trop grande propension à produire des jeunes sur un même moule, certains parlent d'élevage. Des méthodes pédagogiques ont essayé d'innover depuis quelques décennies maintenant. Montessori, Freinet, toutes essaient de faire en sorte que l'enfant cherche et trouve le savoir dont il aura besoin plutôt que de le recevoir tout fait d'en haut. On apprend des choses à l'école, mais on apprend aussi inconsciemment comment ces choses nous sont transmises. Et là, il faut bien convenir qu'on apprend plus à recevoir qu'à créer. Une célèbre maxime dit « Quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt ». C'est désobligeant pour le disciple, mais comment ne pas regarder au moins dans un premier temps ce doigt ? Il est bel et bien réel, tandis que la direction qu'il indique est plus abstraite. On prête à Pythagore, enseignant à ses heures, l'idée de se cacher de ses disciples pour que son apparence physique ne les distrait pas du seul son de sa voix. Peut-être avait-il inventé l'enseignement en distanciel. La pensée humaine n'est pas une matérialité stockée quelque part dans le cerveau comme les livres dans une bibliothèque. Elle est toujours le résultat d'un processus instantané et complexe où le carré de l'hypoténuse est en relation avec le parfum de la salle de classe où on en a entendu parler pour la première fois, le ton du maître qui nous y a initiés. Un être bien instruit a su prendre de la distance avec ses maîtres. Et si c'était ça, la sagesse ?
Vous m'en direz tant ?